Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la une, l'appel de la société civile de Lubero Nord-Kivu au gouvernement pour le cantonnement de groupe Ouazalendo. Cela suite aux nombreuses exactions dont ils sont auteurs dans cette partie du pays. Cet appel intervient après un double meurtre commis par un membre du groupe Ouazalendo Far West. Dans l'actualité aussi, au Kasaï oriental, notez le rétablissement de l'électricité sur une partie de la ville de Mbujimayi, dans le noir depuis une semaine. La ligne haute tension qui transporte l'énergie de la centrale de Toubi-Toubidi vient d'être rétablie. Notre invité est Gaston Bambi Wambambi, président du comité transitoire de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC au Maniema. Il vient de réunir des professionnels des médias de la région pour évaluer la situation de ce secteur. C'est en marge de la journée internationale de la liberté de la presse. Madame, Monsieur, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. La société civile du territoire de Lubero appelle le gouvernement au cantonnement de groupe Ouazalendo dit volontaire pour la défense de la patrie, VDP. Cela en vue de leur formation au règlement militaire et au respect du droit international humanitaire. Cet appel intervient après la condamnation mercredi à la peine capitale d'un membre du groupe Ouazalendo Far West. Ce dernier a été reconnu coupable par le tribunal militaire de garnison de Butembo du meurtre d'un motard et du viol suivi du meurtre de sa cliente la semaine dernière à Kimbulu. La société civile alerte encore une fois à cette occasion sur les dangers liés à la détention d'armes par des personnes non formées. Elle demande également la suppression du mouvement Far West. Son président Muindo Tafuteni s'exprime au téléphone de Martial Papi Mukeba.
La coordination de la société civile Force Vive du territoire de Lubero, elle demeure ferme. La détention des armes par des personnes sans aucune formation, ni règlement militaire, moins encore sa notion des droits de l'homme, est une foyer de sécurité au sein de la population. Elle rappelle sa position au gouvernement de rassembler tous les Ouazalendo dans un centre en vue d'une formation et règlement militaire et des capacitations sur les droits de l'homme. De plus, quant au groupe Phare W, sur lequel la justice s'est prononcée pour sa suspension en territoire de Lubero, la société civile demande la suppression de ces mouvements. Le programme de PDDRCS est une piste pour accueillir ceux qui voudront réintégrer la vie civile.
Toujours dans Kivu, parlant de cette réalité, à Goma, si l'on ne fuit pas la guerre, c'est le volcan que l'on fuit. Et dans les deux cas, les volontaires de la Croix-Rouge sont pour la population des figures familières et rassurantes. À l'occasion de la journée internationale de la Croix-Rouge, le 8 mai, la population de cette ville salue le travail de ces hommes et de ces femmes qui bravent les dangers pour être aux côtés des populations en détresse. Un hommage à suivre dans cet élément de Rosalie Zawadi.
À Goma, vraiment, nous remercions la Croix-Rouge parce que ni t'étais la Croix-Rouge, nous-mêmes, on s'est demandé comment la ville pouvait ressembler.
L'hommage de cette femme de Goma fait référence à l'intervention des volontaires de la Croix-Rouge dans la ville pendant la crise de janvier 2025.
Pendant la guerre, la Croix-Rouge nous a beaucoup aidés parce qu'il y avait des corps par-ci, par-là, mais c'est la Croix-Rouge qui venait ramasser ces corps-là. La ville est tuée par-ci, par-là, mais avec la Croix-Rouge, la ville est devenue vivable. Mais aussi, les enfants qui étaient séparés pendant la guerre avec leurs parents, la Croix-Rouge nous aidait à faire les recherches pour retrouver ces enfants. Ils ont regagné la famille.
À l'image de cette mère de famille, chaque habitant de Goma porte en lui un récit de gratitude envers la Croix-Rouge. Non seulement pendant la guerre, même lors des éruptions volcaniques ou les épidémies. Aujourd'hui, certains veulent aussi être formés pour rejoindre à leur tour ces hommes et ces femmes au brassard rouge. Un engagement pour devenir eux aussi cette lueur d'espoir au cœur de la détresse. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Et face aux besoins humanitaires croissants, liés notamment à l'insécurité et au déplacement des habitants à Beni, la Croix-Rouge appelle la population, en particulier les jeunes, à adhérer massivement au volontariat pour renforcer l'assistance aux personnes vulnérables. Cet appel a été lancé hier vendredi, toujours à l'occasion de la Journée mondiale de la Croix-Rouge. Le président territorial de cette organisation humanitaire salue l'engagement et la bravoure des secouristes dans les actions de secours au sein de la communauté. Roger Mutanara s'exprime au micro de Marc Marofimbo.
Nous tous ensemble, sans différence, sans discrimination, nous devons retenir qu'il faut aller vers les plus vulnérables pour les aider sans distinction. Le message à la population, c'est de pouvoir toujours être avec les volontaires de la Croix-Rouge et pouvoir adhérer pour qu'un jour, ensemble, nous puissions former une unité, cette unité qui peut permettre à ce que nous puissions aller vers la communauté, une communauté qui souffre. Et lorsque nous pouvons comprendre que nous allégeons les souffrances des plus vulnérables, de ceux qui ont besoin de nos actions, il faut que nous soyons nombreux, raison pour laquelle nous demandons toujours à ce que même dans une famille qui est un ou deux volontaires de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo. Nous sommes un partenaire, nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics dans le cadre humanitaire, la raison pour laquelle nous sommes toujours à côté du gouvernement pour que ensemble nous puissions. D'ailleurs, à notre niveau, comme membre de la Croix-Rouge, nous sommes un service technique sur le plan de l'assistance aux vulnérables.
Notez qu'à cette occasion, 49 volontaires secouristes ont reçu des grades de mérite en reconnaissance de leur engagement et de leur bravoure dans les actions de secours au sein de la communauté. Le parti politique Ensemble pour la République hausse le ton après les déclarations du président de la République sur un éventuel troisième mandat et une possible révision de la Constitution. Dans une déclaration politique rendue publique hier vendredi, le parti de l'opposant Moïse Katumbi accuse le chef de l'État de vouloir ouvrir la voie à une modification des verrous constitutionnels et parle d'un coup d'État institutionnel. Ensemble pour la République appelle à une mobilisation en général pour barrer la route à tout projet de troisième mandat. Il invite la société civile ainsi que l'opposition à la création immédiate d'un front républicain de résistance afin de défendre l'ordre constitutionnel. On écoute Olivier Kamitatou, membre du directoire de ce parti, dans cet extrait que nous propose Grâce Amzati.
Le régime prétend que la constitution empêche le développement ou la paix. Nous opposons à ce mensonge la réalité des faits. Sur la paix tout d'abord. Ce n'est pas l'article 220 qui empêche de libérer l'Est. C'est l'absence d'une chaîne de commandement efficace et le détournement des fonds destinés aux opérations militaires. La Constitution n'est pas au front. Nos soldats, eux, y sont, sans moyens. Sur le social, est-ce la Constitution qui empêche nos enfants de fréquenter de bonnes écoles, nos jeunes de trouver du travail, nos sœurs et nos mamans de vivre en sécurité? Est-ce la Constitution qui détourne les fonds des infrastructures? Non. Ce qui affame le peuple, c'est une gouvernance de prédation, de clientélisme et de jouissance. Sur les accords internationaux, prétendre qu'il faut changer la loi fondamentale pour signer des contrats miniers est un aveu de haute trahison. On n'adapte pas la loi de la République aux intérêts partisans. La loi de la République s'impose à tous, citoyens et partenaires concernés. Le parti Ensemble pour la République active solennellement le devoir de résistance.
Dans l'actualité au Kassai-Oriental, notez le rétablissement de l'énergie électrique sur une partie de la ville de Mbujimayi, plongée dans le noir la semaine dernière. La ligne électrique haute tension qui transporte l'énergie produite par la centrale hydroélectrique de Tubitubidi à Boya, dans le territoire de Miabi, vers Mbujimayi, Miabi, Kabeaka, Manga et Katende, rétablie depuis mercredi dernier. D'après le directeur provincial de la SNEL, les travaux ont consisté à la récupération des poteaux engloutis dans le ravin et à la création d'une déviation de la ligne haute tension. Toutefois, d'autres poteaux électriques menacées par des têtes d'érosion seront protégées à la suite du lancement des travaux de lutte anti-érosive, affirme le directeur provincial de la SNEL. Jean-Crispin Mukindi est au micro des stands de la FINA.
La SNEL s'était mise au service. Il fallait d'abord chercher des moyens logistiques pour extraire les poteaux qui étaient dans l'érosion et chercher une ligne de déviation pour éviter l'érosion et reprendre l'exploitation. Le travail consistait d'abord à extraire les poteaux dans l'érosion, de deux, chercher une ligne de déviation pour réimplanter les poteaux ainsi continuer avec la desserte. C'est ce qui a été fait. Après l'extraction du poteau dans l'érosion, nous avons créé une ligne de 30 km de déviation. Ce travail nous a pris pratiquement 6 jours. Nous avons repris l'exploitation normalement. Boya, c'est une cité érosive. À l'entremise du chef de l'État, on a désigné une entreprise à fumeurs qui doit faire la lutte anti-érosive. Nous pensons qu'avec cette entreprise, on va barrer suffisamment des érosions qui menacent le poteau. Ce n'est pas seulement à cet endroit que le poteau était menacé. Il y a plusieurs endroits qui connaissent le même problème. Il y a déjà une entreprise à fumeurs qui est commise à ce travail d'arrêter la progression des érosions à Boya.
L'hôpital général de Lancelle, ici à Kinshasa, vient de bénéficier d'un nouveau bâtiment dédié à la prise en charge nutritionnelle des enfants souffrant de malnutrition, financé par l'UNICEF. Cette unité nutritionnelle a été inaugurée hier vendredi, selon Prosper Amédé, chef de la section santé de cette agence du système des Nations Unies en RDC. Cette infrastructure s'inscrit dans la dynamique du renforcement du système de santé. Blaise Ndongala Mayanda nous en dit plus.
Construit en 5 mois dans l'enceinte de l'hôpital général de Kinkolé, ce centre permet non seulement d'assurer la prise en charge des enfants, mais également de renforcer les actions de prévention, de promotion de la santé, ainsi que de la préparation des aliments thérapeutiques. Cet établissement comprend un bureau, une cuisine, une salle de restauration, ainsi qu'une unité d'hospitalisation pédiatrique équipée de 10 lits. Selon Prosper Amédé, chef de la section santé de l'UNICEF en RDC, cette infrastructure s'inscrit dans le cadre du renforcement du système de santé.
C'est vrai que cette unité donnera une possibilité de prise en charge, une possibilité de faire de la prévention, une possibilité également de faire de la promotion.
De son côté, le secrétaire général au ministère de la Santé a salué cet appui de l'UNICEF tout en rappelant que la situation nutritionnelle en RDC demeure préoccupante, particulièrement dans la zone de santé de Lancelé. Docteur Bodi Ilonga Bompoko.
Aujourd'hui, l'unité nutritionnelle thérapeutique en santé moderne est là. Nous demandons donc aux responsables de l'hôpital général de Kinkolé d'en faire bon usage.
En plus du bâtiment, l'UNICEF a remis 6 motos des marques DT200 pour faciliter la mobilité des équipes de santé de ces centres nutritionnels.
À Matadi, dans la province du Congo central, la filière vétérinaire attire de moins en moins d'étudiants. Les spécialistes de la santé animale tirent la sonnette d'alarme face à cette tendance. En cause, l'insuffisance d'offres de formation dans les universités et instituts supérieurs de la place. Cette situation est jugée préoccupante alors que les sciences vétérinaires jouent un rôle clé dans la protection du cheptel et la prévention de certaines maladies d'origine animale transmissibles à l'homme. Pour Boniface Panzou, chef de division provinciale à la pêche et à l'élevage au Congo central, cette discipline reste indispensable en raison de son lien direct avec la santé publique. Il est ici au micro d'Élise Okavira.
Au niveau du Congo central, presque un peu partout, il y a maintenant des ITAV et des instituts techniques vétérinaires. Alors, dès que vous terminez vos humanités, là, la seule option qui vous reste, c'est de choisir parmi les 4 universités qui sont connues à l'ordre vétérinaire, c'est-à-dire l'université de Lupin, l'université de Kinshasa, le Kraben qui est dans le Kivu et l'université de Lubumbashi. Il y a aussi l'université Kasavu à Bouma. Dans la faculté d'agronomie, il y a l'option zootechnie. Alors, les sciences vétérinaires sont tellement importantes actuellement parce que la plupart des maladies que nous avons sur les corps humains proviennent au moins 70% de maladies d'origine animale et 30% certainement de maladies environnementales. Alors maintenant, la difficulté, peu d'enfants viennent travailler. Ils voient d'abord ceux qui sont déjà au niveau des services, comment ils sont payés, la petite prime qu'on donne. Alors à nous parents, la distance ne peut pas être un problème. C'est plutôt bien éduquer nos enfants pour que ils apprennent, parce qu'en fait, là, c'est la profession. Créer de l'emploi, et c'est suffire par rapport à ce qu'on fait chaque jour.
En parlant des universités, le rapporteur du bureau de l'Assemblée nationale, Jacques Joly, a procédé jeudi au Palais du Peuple à l'installation officielle d'une commission d'enquête parlementaire sur la gestion des quotités des frais académiques dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Cette commission est chargée d'auditer la perception et la gestion des frais de dossier, frais bancaires et autres frais techniques. Cela dans un contexte marqué par des dénonciations de mauvaise gestion et d'irrégularités financières dans plusieurs institutions universitaires publiques. Les détails avec Grace Samsati, notre permanent au Parlement.
À l'origine de cette initiative, des dénonciations formulées par les députés André Mouchongo qui évoquent plusieurs irrégularités dans la gestion des fonds perçus auprès des étudiants. Selon lui, des vérifications ont révélé le non-versement de certaines quotités du Minerval par des responsables d'établissements publics ainsi qu'une mauvaise affectation des fonds destinés à l'amélioration des conditions d'apprentissage. L'élu de Tchikapa dénonce également des retards dans la délivrance des diplômes malgré le paiement des frais exigés par les étudiants. Autre préoccupation soulevée, la perception continue des frais de construction dans certaines universités déjà financées par l'État, ainsi que la facturation des frais d'Internet, alors que des dispositifs de connexion gratuite auraient été installés dans plusieurs sites universitaires. La commission devra ainsi faire la lumière sur la gestion des frais académiques, des frais connexes ainsi que des quotités destinées à différentes structures publiques au cours des 3 dernières années académiques. Composée de 23 membres, cette commission mènera ses travaux pendant 20 jours dans plusieurs villes universitaires du pays avec pour objectif de renforcer la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur de l'ESU.
L'avènement de la saison de pluie est une aubaine pour certains Quinois qui ne manquent pas d'ingéniosité. C'est notamment le cas de ceux que l'on retrouve aux différentes entrées du marché situé dans les environs de l'ancien site communément appelé Zando en pleine réhabilitation. Pour permettre aux clients de circuler malgré la boue, ces jeunes proposent des petits services parmi lesquels la vente des sachets en plastique à enfiler aux pieds ou encore le lavage des pieds et des chaussures, une activité qui leur permet de générer quelques revenus. C'est un reportage signé Joyce Masanka.
À chaque fois qu'une forte pluie s'abat sur la ville de Kinshasa, les marchés situés sur l'avenue Itaga deviennent impraticables. Le flaque d'eau, la boue et les immondices rendent la circulation pénible. Pour éviter de salir leurs pieds ou leurs chaussures pendant leurs achats, certains clients acceptent le service proposé par de jeunes vendeurs installés dans les allées du marché. Ils leur enfilent des sachets en plastique aux pieds, vendent un sachet à 500 francs et à chaque pied, ils en suggèrent deux.
Les sachets que nous vendons ici aident les clients qui entrent dans le marché pour faire leur achat, surtout à cause de la boue et de la saleté.
À la sortie du marché, d'autres jeunes proposent de laver les pieds ou de nettoyer les chaussures de clients, moyennant une petite somme. Une activité devenue courante dans ces grands centres de négoces où l'insalubrité reste visible au quotidien. Une situation qui n'est pas du goût des clients, lesquels dénoncent des conditions d'hygiène précaires dans ces lieux fréquentés chaque jour par des milliers de vendeurs et d'acheteurs.
Nous demandons que les marchés soient bien entretenus pour éviter ce genre de situation. C'est très pénible.
En attendant une amélioration des conditions d'assainissement, plusieurs estiment que l'entretien de ces marchés demeure une priorité. Pour ces jeunes, en revanche, cette insalubrité représente une occasion de gagner de l'argent pour assurer leur survie.
Actualité internationale.
Oui, leaders de l'opposition tchadienne arrêtés à la fin du mois dernier ont été condamnés hier vendredi à 8 ans de prison. C'est ce qu'a déclaré leur avocat, l'agence France Presse. Il s'agit des dernières arrestations en date des détracteurs du président Mahamat Idriss Déby, des accusés tous membres du seul mouvement politique à avoir systématiquement contesté l'élection de Déby avaient été arrêtés dans la capitale N'Djamena une semaine avant une marche de protestation et d'indignation interdite par le gouvernement. Ils avaient été placés en détention provisoire dans l'attente des conclusions d'une enquête judiciaire pour association de malfaiteurs, rébellion et détention illégale d'armes de guerre.
L'invité.
Il s'agit du président du comité transitoire de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, dans la province du Maniema. À l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai, il a réuni des professionnels des médias de la région lors d'une conférence débat à Kindu sur la situation du secteur. Grâce Mbambi Wambambi, s'entretient avec Florence Kizalunga.
Grâce Mbambi Wambambi, bonjour.
Bonjour.
Liberté de la presse au Maniema à l'heure du numérique. Cet thème, pourquoi vous l'avez choisi pour animer votre conférence débat à l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai de chaque année?
En fait, nous avons choisi ce thème, c'est pour nous permettre, nous professionnels des médias de la province du Maniema, en particulier nous de la ville de Kindu, de réfléchir autour de l'actualité de l'ère qui est l'évolution numérique. Il est vrai que les médias doivent suivre cette évolution numérique et il se constate malheureusement que chez nous dans la province du Maniema, particulièrement ici à Kindu, nous sommes en retard. Et voilà pourquoi nous, UNPC, nous avons décidé de réfléchir autour de ce thème pour nous permettre de voir comment nous allons rattraper ce retard pour que le média ou les journalistes du Maniema soient aussi à la pointe du numérique qui est en train d'évoluer du jour au jour.
Est-ce que la presse du Maniema est prête à basculer vers cette transition étant donné que le numérique présente encore des grands défis dans cette province du Maniema?
La presse du Maniema est prête à cette transition, mais cela passe par certaines conditions. D'abord, premièrement, il faudra former les journalistes sur l'utilisation du numérique, mais aussi par rapport à la situation du milieu, c'est-à-dire la réalité de la province du Maniema. Il y a aussi d'autres paramètres qu'il faudra voir de plus près, parce que, comme vous le savez, nous faisons face à un problème criant lié à la connexion Internet, et donc il est aussi demandé à ce que nous puissions voir dans quelle mesure nous pouvons nous équiper, c'est-à-dire, je te dis, ici je parle des médias, les médias doivent s'équiper pour avoir, par exemple, une bonne connexion, avoir des plateformes qui vont leur permettre donc de diffuser les informations au-delà de leur bassin d'audience. Donc, cela passe par ces deux conditions, il faut d'abord passer par la formation et puis l'équipement. Et cela aussi demande un moyen, voilà pourquoi nous avons aussi réfléchi dans ce sens, c'est-à-dire nous avons essayé de trouver des mécanismes qui peuvent nous aider, nous médias ou nous journalistes de la province du Maniema, d'avoir des petits financements qui vont nous aider justement à faire faire cette transition numérique.
Parlant de ces petits financements, vous avez parlé aussi de la création de ces fonds provinciaux pour l'appui aux médias.
Et justement, nous avons initié un projet dédié qui porte sur la création d'un fonds d'appui aux médias, d'appui à la presse, qui s'appelle FAP en sigle. L'idée est de chercher le financement, que ce soit au niveau du pouvoir ici en province ou d'autres partenaires qui vont nous aider justement à avoir des moyens suffisants, comme je venais de dire, pour former les journalistes et permettre aux médias de trouver des outils et d'être en mesure même de diffuser en ligne, que ce soit au niveau des radios ou des télévisions. Donc voilà l'idée de mettre en place ce projet dédié à qui nous allons soumettre soit au gouvernement provincial à travers le ministère provincial de la communication et médias, ou soit nous allons chercher un élu provincial qui doit l'endosser et le présenter au niveau de l'Assemblée plénière pour que cette dédié passe et que ça soit promulgué par les gouverneurs de province pour qu'enfin nous, journalistes ou nous, médias, d'une manière, nous puissions respirer, en tout cas avec le peuple que nous allons réussir à réunir à travers le FAP pour aider à cette transition numérique.
Étant ensemble avec les autorités politico-administratives, vous avez aussi parlé de la précarité financière des médias d'Imanément. Au même moment que vous célébrez la journée de la liberté de la presse, certaines radios d'Imanément sont fermées, scellées par la DGRAD.
Vous avez vous-même compris qu'il y avait vraiment une contradiction de ce que nous étions en train de parler et la réalité qui venait de se dérouler. Nous avons démontré la situation précaire que le média d'Imanément est en train de traverser. Il est vrai que le média d'Imanément éprouve des sérieux problèmes en ce qui concerne la mobilisation des recettes. C'est pratiquement impossible de voir un média ici à Kindu, je donne un exemple, de mobiliser par exemple 2000, 3000 dollars le mois. Mais vous verrez des structures de l'État qui viennent demander 15 000, 20 000 dollars à une radio communautaire par exemple. Où est-ce qu'elle va trouver les moyens? C'est comme ça que nous avons tiré l'attention des autorités au niveau de notre province pour que les autorités voient dans quelle mesure elles peuvent accompagner les médias. Parce qu'on ne peut pas parler de la liberté de la presse sans aussi faire allusion aux conditions dans lesquelles les journalistes sont en train d'évoluer. Mais malheureusement, après nous allons apprendre que non, trois médias ont été fermés pendant qu'on était en train de célébrer la journée internationale de la liberté de la presse. Et c'est déplorable en tout cas. Voilà pourquoi une fois de plus, nous allons attirer l'attention du pouvoir provincial pour voir dans quelle mesure ils peuvent alléger tant soit peu ce que les médias, particulièrement les médias communautaires, doivent payer à l'État.
Grâce Mbambi Wambambi. Merci.
Merci beaucoup, madame.
Grâce Mbambi Wambambi, président du comité transitoire de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, dans la province du Maniema. Voilà qui met fin à ce journal que Jean Gandou a préparé avec Babène Pongo-Massimango à la présentation et Jean-Claude Siala à la mise en onde. Merci de votre attention. Excellent week-end.